France Culture.
Et c'est l'heure du journal de la rédaction qui vous est présenté ce soir par Camille Marigaud. Bonsoir Camille.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Après l'annonce d'un repreneur pour Brandt, le gouvernement reste prudent concernant le projet de reprise du groupe d'électroménager placé en liquidation judiciaire. L'industriel français Thomson Computing, spécialisé dans les produits informatiques, propose de sauver un peu moins de la moitié des 350 emplois. Les syndicats de Brandt, eux, s'interrogent sur la position de l'État dont ils attendent plus de soutien. Le géant pharmaceutique français Sanofi, lui, va s'offrir un spécialiste américain du vaccin contre l'hépatite B, l'entreprise Dynavax. Nous y reviendrons avec Tara Schlegel. Une mesure jugée inacceptable, qualifiée d'intimidation. La France et Bruxelles condamnent les sanctions prises par Washington à l'encontre de plusieurs Européens engagés dans la lutte pour la régulation du numérique. En Russie, cette fois, le Kremlin accentue son contrôle de la messagerie WhatsApp au profit d'une application beaucoup plus facile à surveiller pour Moscou. Enfin, c'est un produit de luxe prisé par certains pour les fêtes. Le caviar qu'en France nous produisons et exportons avec succès, mais désormais sérieusement concurrencé par les précieux œufs d'esturgeon venus de Chine. Aujourd'hui, nous avons une solution de renouveau. Elle s'appelle Thomson. Les mots du maire d'Orléans, Serge Grouard, à l'occasion d'une conférence de presse organisée ce matin, a annoncé à la surprise aussi des représentants de salariés hier soir. Le spécialste de l'électroménager fait l'objet d'une offre de la part du groupe informatique qui ne produit plus rien en France, mais pourrait s'offrir le site de Saint-Jean-de-la-Ruelle pour reprendre une partie de la production actuelle et lancer de nouveaux électroniques, le tout en conservant 150 salariés sur les 750 mis au chômage il y a deux semaines. Bonsoir Valentin Grille.
Bonsoir Camille.
Et le maire d'Orléans qui l'a rappelé, le tribunal judiciaire de Nanterre a acté la liquidation de Brandt. On ne parle pas tant d'une reprise que d'un redémarrage.
Oui, d'où une certaine impatience car un liquidateur judiciaire distribue en ce moment les courriers de licenciement. Il va vendre les meubles et les murs. Il faut aller vite, très vite selon Serge Grouard.
On n'a pas beaucoup de temps. Si l'on veut qu'il y ait un redémarrage, on ne peut pas attendre 3 mois, 4 mois ou plus, parce que il n'y aura plus les salariés, il n'y aura plus les clients.
Et pour incarner un renouveau à ses côtés, Stéphane Français, le patron de Thomson, qui détaille son projet, relancer le petit électroménager, mais pas tout le gros, car les fours usinés à la pièce, ça ne peut pas continuer selon lui. Développer l'informatique aussi, et le tout dans une seule usine.
Très honnêtement, c'est pas du tout dans ma volonté d'aller continuer en fait une activité sur 3-4 sites comme ça a été proposé parce que je sais pas si on m'explique que quand je me mets 4 boulets au pied, je peux pas courir le 100 mètres plus vite que les Américains ou les Chinois qui en ont pas. Bah, très honnêtement, ma première pensée c'est de me dire non, je vais essayer d'enlever les boulets.
Exit donc les sites de Cergy, Rueil-Malmaison et Vendôme, coût total du projet 25 millions d'euros sans que l'on sache pour l'instant d'où proviennent les fonds.
Il y a des investisseurs qui sont là derrière tout cela. Ne nous demandez pas les noms, on ne va pas les donner. On pense qu'on va réussir, mais il faut nous aider. Et il faut que tout le monde nous aide, comme j'ai dit, public, privé, tout le monde.
Côté syndicat, c'est l'attitude de l'État justement qui interroge. Son engagement faible, 5 millions d'euros contre 20 pour les collectivités, avait déjà fait fuir les banques du seul projet de reprise déposé, une SCOP, et donc entraîné Brandt vers la liquidation. Pascal Sudre, secrétaire départemental CGT du Loiret, attend donc aujourd'hui un soutien clair de Bercy pour diversifier Brandt, mais aussi sauver plus de postes.
Si l'État s'engageait véritablement pour faire en sorte que ce projet aboutisse, nous on pense que il serait possible d'aller beaucoup plus loin que l'offre faite aujourd'hui par le groupe Thomson.
Or, à Bercy, ce midi, le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, freinait, rappelant que l'offre de Thomson devait être validée en justice et qu'un appel d'offres allait être organisé en janvier, actant donc déjà un désaccord sur la rapidité du calendrier.
Merci Valentin Grille du service économie de France Culture, opération d'une toute autre dimension. À présent, la reprise par le géant pharmaceutique français Sanofi de l'entreprise américaine Dynavax, qui commercialise notamment un vaccin pour adultes contre l'hépatite B. Une offre publique d'achat va être lancée par le groupe français pour acquérir toutes les actions de Dynavax, celle-ci étant valorisée à un peu plus de 2 milliards de dollars. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir Camille, bonsoir à tous.
Cette reprise fait partie d'une stratégie bien rodée de la part de Sanofi.
Sanofi, depuis quelque temps déjà, délaisse les médicaments matures basés sur des molécules chimiques qui ont fait son succès pour des traitements innovants, dits biologiques, développés à partir de cellules ou d'organismes vivants, virus, bactéries, etc. On se souvient qu'en avril dernier, Sanofi a cédé Opella, sa filiale tout de même numéro 3 mondiale des médicaments vendus sans ordonnance et au passage maison mère de Doliprane, cédée donc avec deux usines françaises, celle de Lisieux et de Compiègne. Et puis Sanofi s'est aussi débarrassé de sa branche distribution, vendue à DHL, ainsi que de l'usine du Lovenox, l'anticoagulant, qui doit être vendue, elle, à un fabricant allemand, même si ce dernier médicament reste sous pavillon tricolore. À l'inverse, le géant français développe, je l'ai dit, des traitements innovants, achète des start-up, son best-seller, on dit blockbuster pour la pharma, c'est le Dupixent, un anticorps monoclonal qui lutte contre les maladies inflammatoires. 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires tout de même, ça assure un tiers des revenus du groupe. Vendu pour une maladie, aujourd'hui il en traite au moins 4, c'est l'un des 10 traitements les plus vendus au monde. Et dans la même lignée, Sanofi, depuis ces derniers mois, a acquis 5 biotech, dont aujourd'hui le rachat de Dynavax.
Et justement, Tara, que sait-on de cette entreprise que Sanofi annonce acheter avec ses liquidités disponibles? Là, on l'a dit, l'équivalent de 2 milliards d'euros.
Oui, ça montre quand même que la multinationale possède une trésorerie confortable. Alors, dans les actifs de la biotech, il y a un vaccin adulte contre l'hépatite B, vous l'avez dit Camille, qui occupe déjà 46% des parts de ce marché aux États-Unis, marché pourtant compétitif. Les Américains ont le choix entre une dizaine de vaccins contre cette hépatite. Mais celui-là ne requiert que 2 injections contre 3, sinon. Et Sanofi rappelle que 100 millions d'adultes américains ne sont toujours pas vaccinés contre l'hépatite B. Et puis, dans le pipeline de Dynavax, donc dans les tuyaux en bon français, il y a aussi un vaccin contre le Zona qui a l'air prometteur et des essais cliniques pour un vaccin contre la maladie de Lyme. Bref, la corbeille de la mariée où aujourd'hui vous m'autoriserez à dire la hotte du Père Noël est assez bien remplie.
Merci Tara Schlegel. Le gouvernement annonce que la recherche va s'intensifier au sujet de la dermatose nodulaire contagieuse, faute de revenir sur l'abattage systématique des troupeaux touchés par le moindre cas. Cette stratégie ne peut pas être revue, c'est ce qu'a conclu hier une cellule de dialogue entre éleveurs et scientifiques au vu des connaissances sur la maladie et de la situation. L'État va donc accompagner davantage les recherches sur la dermatose, a précisé le ministère de l'Agriculture sans préciser de montant financier. La cyberattaque qui a touché la Poste lundi est toujours en cours à quelques heures de Noël mais continue de perdre en intensité, indiquait ce midi l'opérateur qui précise que le suivi des colis reste difficile sans empêcher leur livraison. L'activité de banque en ligne a quant à elle repris normalement. Cette attaque a été revendiquée hier par des hackers russes. Les réactions se sont multipliées aujourd'hui après la décision américaine de priver de visa plusieurs personnalités européennes engagées dans la régulation des nouvelles technologies. Parmi elles, le français Thierry Breton, ex-commissaire européen. L'Allemagne juge inacceptable ces sanctions. Londres, de son côté, se dit pleinement engagée à défendre la liberté d'expression. Et après Emmanuel Macron qui a dénoncé une intimidation contre la souveraineté européenne, la Commission elle-même a condamné ces mesures, Elsa Loswarn.
Depuis ce matin, c'est un déluge de réactions politiques à Bruxelles. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Kaya Kallas, parle d'une décision inacceptable, tout comme Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen. Les appels à une réaction forte se sont multipliés toute la journée de la part d'eurodéputés contre ce qui est perçu comme une tentative d'intimidation, mais surtout comme une atteinte à la souveraineté européenne. À cette heure, la réaction politique, notamment celle de la Commission européenne, est encore peu claire. Ce midi, par communiqué, elle prévenait « En cas de besoin, nous réagirons rapidement et fermement pour défendre notre autonomie réglementaire contre toute mesure injustifiée ». Pour de nombreux observateurs de la politique européenne, cette interdiction de territoire est surtout une manière de mettre la pression sur Bruxelles dans le cadre de pourparlers en cours, très tendus sur la régulation des réseaux sociaux. La semaine passée, Washington a menacé de sanctions plusieurs entreprises européennes comme Spotify ou Mistral si l'Union européenne ne recule pas sur sa législation. Une guerre sur le numérique qui vise également la Grande-Bretagne et la Corée du Sud.
En Russie, cette fois, les autorités resserrent petit à petit leur étau sur les conversations en ligne. L'application WhatsApp, très populaire là-bas, est en effet considérée comme un outil à la solde de terroristes ou de fraudeurs, en clair comme une menace pour le pays. Cette messagerie, propriété de Meta, maison mère de Facebook, est de plus en plus perturbée. En parallèle, depuis des mois, le Kremlin tente d'inciter la population à utiliser un autre outil de communication plus simple, à surveiller à Moscou. Les explications de Sylvain Tronchet.
Le gendarme russe de l'Internet et des communications, Roskomnadzor, l'a reconnu. Il prend actuellement des mesures progressives de restriction visant WhatsApp. Les appels vocaux sur la messagerie étaient déjà bloqués depuis cet été. Mais maintenant, ce sont les messages qui passent de plus en plus mal. Le média économique russe RBK indiquait lundi que la vitesse de fonctionnement de WhatsApp avait chuté de 70 à 80% en Russie. Dans un communiqué, les dirigeants américains de WhatsApp ont dénoncé ces attaques contre leur service, expliquant que contraindre les gens à utiliser des applications moins sécurisées et imposées par le gouvernement russe ne pouvaient que nuire à la sécurité de la population russe. WhatsApp fait référence à Max, la nouvelle messagerie russe que le pouvoir promeut à grand renfort de publicité. Max n'est pas cryptée de bout en bout et de nombreux opposants dénoncent le fait qu'elle soit totalement transparente pour les services de sécurité. Mais les Russes n'auront probablement pas le choix très prochainement, sauf à utiliser des VPN pour contourner les blocages.
Moscou qui doit s'exprimer dans la soirée concernant la nouvelle version du plan de paix américain présenté en début de journée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier a annoncé avoir obtenu de Washington une révision du document. Celui-ci prévoit désormais un gel du front, mais n'impose plus de retrait ukrainien du Donbass, ni d'engagement juridique de Kiev à ne pas rejoindre l'OTAN. Or, il s'agit là de deux demandes importantes de la Russie, dont l'accord est donc loin d'être acquis. Volodymyr Zelensky, dont le mandat a expiré en 2024, a aussi indiqué que cette nouvelle mouture du plan prévoit l'organisation d'une élection présidentielle dès que possible en Ukraine après la signature d'un accord. C'est une mesure qui divise dans un pays à majorité musulmane. En Gambie, la pratique de l'excision pourrait refaire surface alors que la Cour suprême a entamé il y a quelques jours l'examen d'un recours qui remet en cause l'interdiction de cette mutilation génitale, c'est-à-dire l'ablation du clitoris, proscrite depuis 10 ans dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Alice Moreno.
Cette demande d'un retour en arrière sur la question de l'excision est portée par un député et des organisations religieuses, appuyée notamment par un imam influent, Abdoulaye Fatih, qui affirme que l'excision serait conforme aux préceptes de l'islam. D'après l'UNICEF, 73% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été excisées, ce qui place la Gambie parmi les pays les plus touchés par les mutilations génitales féminines. En 2015, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest a adopté une loi criminalisant la pratique et prévoyant des peines allant jusqu'à 3 ans de prison pour ceux qui pratiqueraient l'excision et la perpétuité en cas de décès de la victime. Ce n'est pas la première fois que l'illégalité de l'excision est remise en cause dans le pays. En 2024, déjà le même député avait porté un projet de loi pour la rendre légale, projet de loi qui avait heureusement été rejeté. Outre le traumatisme psychologique que peut représenter une telle mutilation, l'ablation totale ou partielle du clitoris peut avoir des conséquences physiques très graves. Douleur, incapacité à avoir des relations sexuelles, impact sur la santé reproductive et des infections causant parfois la mort. En août dernier, un nourrisson est décédé des suites d'une excision, soulevant une vague d'émotions à travers toute la Gambie.
Première sortie de prison pour Jair Bolsonaro depuis son incarcération fin novembre pour tentative de coup d'État. L'ancien président brésilien, âgé de 70 ans, va passer Noël à l'hôpital où il doit être opéré demain. Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de réclusion, reconnu coupable d'avoir fomenté son maintien au pouvoir de façon autoritaire selon la Cour suprême après sa défaite à la présidentielle de 2022 remportée par Lula. Elles sont prix Nobel, anciennes chefs d'État et de gouvernement. Plus de 400 figures féminines se mobilisent en soutien à la militante iranienne Zahra Tabari, condamnée à la peine de mort dans son pays en octobre dernier. Son tort, avoir manifesté pour le droit des femmes. Ces personnalités appellent à la libération de cette militante. Parmi les signataires du texte envoyé à Téhéran, la philosophe Elisabeth Badinter, contactée par Omar Waman.
Elisabeth Badinter est une femme en colère.
C'est absolument insupportable.
Une colère dirigée contre le régime iranien, accusée de s'acharner contre les femmes à l'image de Zahra Tabari, une activiste qui risque la peine capitale pour avoir défendu publiquement ses idées.
Qu'une femme de 67 ans, ingénieure, soit condamnée à mort pour avoir brandi une banderole où était marquée « femme, résistance et liberté », eh bien, c'est tout simplement sauvage.
Ce texte, signé par Elisabeth Badinter, dénonce, au-delà du cas de Zahra Tabari, la terreur subie par l'ensemble des Iraniennes dans un pays où les exécutions visant des femmes sont les plus nombreuses au monde. Selon l'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège, les autorités iraniennes ont exécuté plus de 40 femmes cette année.
C'est barbare, c'est tout. On n'est plus dans une civilisation du 21e siècle. On est dans des mondes qui ne doivent plus exister. Qui sont absolument abominables.
Et le cas de Zahra Tabari met une fois de plus en lumière l'instrumentalisation de la peine capitale par l'Iran afin de réprimer toute forme de contestation.
Omar Waman. Un deuil national de 3 jours en Libye, pourtant divisé entre l'Est et l'Ouest, dirigé par 2 camps rivaux. Après la mort du chef d'état-major Mohamed Al-Haddad, avec plusieurs autres responsables militaires dans un accident d'avion en Turquie, l'appareil s'est écrasé hier 40 minutes après son décollage d'Ankara. La boîte noire doit être analysée par un pays neutre, selon les autorités turques. La disparition de l'acteur et réalisateur israélien Mohamed Bakri, grand défenseur de la cause palestinienne, connu pour son documentaire Jenin Jenin ou pour avoir incarné un détenu palestinien dans le film Au-delà des murs. Il est décédé dans un hôpital du nord d'Israël. Né en Galilée, Mohamed Bakri avait connu de nombreuses confrontations avec les autorités israéliennes pour son engagement. Annulées depuis l'attaque du 7 octobre, les festivités de Noël sont de retour à Bethléem, des célébrations permises par la très fragile trêve en vigueur à Gaza depuis 2 mois. Et puis à des kilomètres, à des milliers de kilomètres de là, Léon XIV présidera lui ce soir au Vatican la première messe de Noël de son pontificat. Retour en France avec l'un de ces produits de luxe qui garniront certaines tables ce soir et demain, à côté du foie gras ou du champagne, le caviar, dont la production française d'Aquitaine est mondialement reconnue, mais concurrencé de plus en plus par les précieux œufs de poisson venus de Chine, car désormais Pékin mise sur les productions à forte valeur ajoutée, Catherine Pétillon.
Et pour le caviar, c'est un succès. L'an dernier, elle en a vendu à l'étranger 322 tonnes pour 98 millions de dollars. C'est 43% du marché mondial. Le pays est devenu le premier exportateur au monde, suivi par l'Italie, mais qui est loin derrière avec elle 10% du marché. Pour prendre cette avance sur les autres pays producteurs de caviar, la Chine a mis les moyens, avec le soutien de gouvernements locaux aux régions agricoles riches pour les encourager à s'orienter vers des productions de ce type. Le choix d'espèces d'esturgeon à croissance rapide pour le développement de cette pisciculture. Et la Chine a désormais la plus grande ferme d'esturgeons du monde. Si cette production chinoise a pris beaucoup de place sur les marchés internationaux, c'est aussi l'effet d'une réduction de la consommation interne, notamment en raison d'une politique anticorruption qui a diminué les banquets et la consommation de produits de luxe, dont le caviar. Et plus récemment, les sanctions des produits russes ont aussi bénéficié à la Chine. Dans ce contexte, la France, qui produisait il y a 15 ans la moitié du caviar mondial, ne représente plus que 9% environ. Les 8 producteurs nationaux, dont 6 sont en Nouvelle-Aquitaine, s'efforcent de composer avec cette nouvelle concurrence chinoise au prix cassé. Ils font valoir leurs bonnes pratiques et leurs standards de production. Ce caviar d'Aquitaine a d'ailleurs obtenu cette année une reconnaissance via une IGP, une indication géographique protégée que ses producteurs convoitaient depuis 10 ans.
Enfin, autre incontournable des tables de fête, les huîtres bien sûr, dont les ventes sont à leur pic en ce moment pour les ostréiculteurs. La période peut représenter jusqu'à la moitié de leur chiffre d'affaires car il faut fournir les grandes surfaces, les marchés, les poissonneries et la vente directe. Reportage dans une concession d'Aradon, Frédéric Collin.
Multimédaillé au concours général agricole pour ses creuses et aussi pour ses plates du golf, la maison Gégat n'échappe pas au rush de fin d'année. Téléphone dans une main, carnet de commandes dans l'autre, Carole est à fond.
C'est le rush, hein, comme d'habitude. On a l'habitude, tous les ans on répète ça, donc on sait faire, on s'adapte.
Ici tous les salariés participent, ils sont d'ailleurs 2 de plus pour ces fêtes de fin d'année. Tri des huîtres, mise en bourriche et accueil des clients en ciré jaune.
Qu'est-ce qu'il vous faudrait? On voulait 4 douzaines.
Ouais.
On va prendre de la 2.
C'est important pour vous de venir chez le producteur?
C'est le travail des gens localement et puis en plus, Gégat, ils ont une réputation. Voilà, donc oui, c'est très important.
La vente directe, c'est une tradition chez les ostréiculteurs. Un vrai plus pour le patron Yvonne Djegat.
On crée des liens. Si le bonhomme a du temps, il peut parler de son produit, il peut parler de l'amour qu'il met dans son produit. Enfin, moi, je suis à fond pour la vente directe.
Et les clients, pour la plupart locaux et fidèles, ne ratent pas le rendez-vous.
Ce matin, on était chez Leclerc. On a hésité. On s'est dit, est-ce qu'on les prend là-bas? Et puis bon, on aime bien venir par ici. Voilà. On aime bien venir à Aradon.
Pour les ostréiculteurs, il n'y aura qu'une petite petite pause ce soir et demain, car dès vendredi, la course reprend.
Ça s'arrête quand? Allez, on va dire le 7 janvier. Donc bah, on continue, hein?
Frédéric Collat d'ici Armorique pour France Culture. Les températures vont rester basses demain pour ce jeudi de Noël avec un ciel toujours perturbé au sud, pluvieux dans le Languedoc-Roussillon jusqu'au Var. Il neigera sur les Alpes frontalières dès 700 mètres d'altitude au sud du Massif central et sur l'est des Pyrénées. Le soleil dominera en revanche sur un grand quart nord-est. Les températures baissent encore avec des gelées à l'intérieur des terres. Elles resteront positives entre 4 et 9 autour de la Méditerranée. En journée, pas plus de 5 degrés du nord au sud-ouest, autour de 10 degrés dans le sud et jusqu'à 15 en Corse. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, Éric Perruchot-Triboulet à la technique.